Cube Radio.
LP, est-ce que tu possèdes encore ton premier char?
Non, je regrette toujours de l'avoir vendu. Et toi?
Malheureusement, je m'en suis départi l'année dernière après l'avoir possédé pendant une décennie.
Wow! Oui. Quand même.
Toi et moi avons probablement 74 000 points en commun, mais on en a un en commun dont on va aborder le sujet aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a tous les deux acheté notre première voiture avant d'avoir notre permis de conduire. L'histoire de ma première voiture, je pense l'avoir racontée mille et une fois. J'y reviendrai rapidement. La tienne n'est pas piquée des verres. Alors aujourd'hui, on réserve un épisode complet à la première voiture, l'anecdote de notre première voiture, et on va se permettre quelques conseils d'achat pour cette première voiture, parce qu'on sait que c'est important l'achat d'une première voiture, puis des fois, on n'a pas beaucoup d'argent dans les poches quand vient le temps d'acheter cette première voiture-là.
Écoute, je suis prêt à en parler.
On part!
On part!
On part! LP, ma première voiture, j'ai l'impression d'avoir cassé les oreilles de toute la planète avec cette anecdote-là, mais tu me disais hors d'onde ne pas la connaître.
Écoute, ça se peut que tu me l'aies raconté puis je t'écoutais pas pendant que tu me parlais. Ça arrive des fois, mais je trouve que non, j'aimerais ça. Allez, raconte encore une fois à Louis-Philippe, c'est quoi le premier achat de véhicule que tu as fait dans ta vie?
Mon premier amour. quelques semaines avant l'obtention de mon permis de conduire, donc je n'avais en poche que mon permis d'apprenti conducteur, alors que j'étais toujours étudiant en secondaire 5, alors que l'automne était à nos portes, ben je me suis dit, pourquoi je ne consacrerais pas presque la totalité de mes économies à l'achat d'une voiture de plus de 40 ans et que je ne roulerai pas pour les 6 mois suivants.
Ben oui.
Ça me semble...
On prend tellement des bonnes décisions à cet âge.
Ça me semblait une excellente décision. Donc, de ce pas, à l'automne 2012, je me suis procuré une Chrysler Newport 1972, une grosse berline américaine brune à 4 portières et qui mesurait 19 pieds et demi de long, une grosse voiture brune avec un moteur V8, voiture très économique, hein, tu l'auras deviné.
Ben oui.
J'avais vu cette voiture à vendre sur Kijiji parce que évidemment AutoGo n'existait pas à ce moment-là et c'est une dame d'un âge certain ou d'un certain âge, je ne sais pas sans faire d'âgisme comment on peut dire ça, mais disons qu'elle était née dans les années 20 et elle utilisait cette voiture-là sur une base quotidienne, une dame de Duvernay. Je trouvais ça exceptionnel. Donc, et elle trouvait que cette voiture-là était finalement peut-être un peu grande, un peu grosse pour elle. Et elle s'était procuré une Hyundai Accent en guise de voiture de remplacement pour la Chrysler Newport 1972.
Wow!
Un changement drastique. Donc, voilà, sans plus tarder, je me suis procuré cette voiture-là sans permis de conduire. Donc, les premières balades, je les ai faites avec mon père ou avec ma mère assis sur le siège passager à 2 mètres de distance avant qu'il soit bien important
oui.
de conserver 2 mètres de distance.
Avant-gardiste.
Et c'était mon premier amour. J'ai été à mon bal de graduation avec cette voiture-là. On était trois sur la banquette à l'avant, 3 sur la banquette derrière. La valise bien remplie de matériel pour l'après-bal.
Oui.
Cette voiture-là, ben il y a eu des reportages dans le V8 Passion. Cette voiture-là m'a permis de faire la rencontre d'une copine. Cette voiture-là, c'était 10 ans de ma vie alors que je l'ai achetée à l'âge de 17 ans. Bref, c'était... tu vois, c'est drôle d'en reparler parce que je l'ai vendue l'été dernier et je suis presque émotif d'en parler. Je ne vis pas de regrets parce que je pense que c'était le moment de la vente. J'avais vécu ce que j'avais à vivre avec cette voiture-là, mais j'en garde...
Tu manques pas de voiture en ce moment, là, si
bon,
je me trompe, il y en a partout tout le temps, là, chez vous.
Qu'est-ce que tu veux dire?
Mais on a quelque chose en commun.
Parce que j'ai 28 minounes. Oui, on a quelque chose en commun. Qui est pas banal, je pense.
Oui, c'est ça. Ben on revient là-dessus parce que moi, c'était un peu la même histoire. Pour ma première voiture, j'avais pas de permis encore. Et puis, je revenais de l'école avec mon père sur la rue où est-ce qu'on habitait. Et puis, il y avait un Jeep YJ, hein, Jeep Wrangler, oh, YJ, 1995, qui était là au bout d'une entrée d'un de nos voisins qu'on connaissait très peu. Et puis, il y avait la belle pancarte à vendre.
Et là, on est en quelle année? De quelle année le Jeep? Situe-nous un peu, là.
Je pense qu'on est en 98. Le Jeep, à 80, c'est un 95. Et puis, pourquoi seulement quelques années? C'est une succession, en fait. Propriétaire décédé d'une crise cardiaque beaucoup trop jeune. Et puis, ses parents ont mis le véhicule à vendre à ce moment-là. Et puis, moi, je passais devant, puis je repassais devant, puis je repassais devant. Deux fois par jour, je passais devant. Puis on habitait vraiment dans le milieu de nulle part, fait qu'il y avait pas grand monde d'autre que moi qui passait devant. Là. Tu sais, c'était vraiment... Il l'avait mis là, mais je pense que la famille, il voulait confier ce véhicule-là.
Ah, parce qu'il y avait une pancarte à vendre dans la vitre. Là.
Oui, okay. Mais c'était une rue qui avait personne qui passait là.
Je comprends.
Nous, là, tu sais, fait que c'était... Je me suis dit qu'il était peut-être pas pressé de le vendre. Ça a été comme un processus que quasiment on m'a confié ce véhicule-là. Là, tu sais, il était tellement bien entretenu par son propriétaire. Et puis, je me sentais un peu, quand j'en ai fait l'achat, un peu comme toi, je me sentais comme un peu privilégié d'avoir eu ce véhicule-là, que j'avais comme un mandat un peu de l'entretenir puis de le rouler. Puis en plus, c'était mon premier véhicule. Tu sais, dans ce temps-là, on n'avait pas les téléphones, on n'avait pas des affaires pour communiquer avec nos amis. Puis quand on habitait dans le milieu de nulle part, comme moi, ben le véhicule, c'était l'essentiel. C'était pas en shape pour pédaler dans un bicycle, comme moi, je l'étais pas. Ben c'était le véhicule, c'était la clé là, de
c'est
de
un symbole de liberté comme rien d'autre. Là.
Ouais, fait que ce Jeep YJ 95, là, pour moi, ça avait toutes sortes de symboles. Je l'ai gardé pendant plus de 15 ans. Ça fait quelques années. Je suis pas mal plus vieux que toi, là, mais ça fait quelques années, plus que quelques années que je l'ai vendu, mais je l'ai gardé pendant 15 ans, le véhicule, parce qu'il remplissait toutes sortes de besoins. Je vais te dire, pas de toit, pas de porte, là, à se promener l'été, à aller à l'école secondaire, puis essayer d'impressionner les chums.
À pas aller au cégep avec ton véhicule.
Ou aller au cégep et à pas aller à mes cours. Ça, c'est une autre affaire. Un véhicule dans lequel que j'ai fait de nombreux road trips. Un véhicule que j'ai laissé en avant d'un motel ou d'un restaurant, puis que j'ai pris un taxi chez nous, mais j'avais oublié de mettre le toit, puis il y a eu de la pluie toute la nuit, puis quand j'allais le chercher, il fallait que je tire le bouchon dans le fond de la caisse pour vider l'eau. Écoute, toutes sortes de petites anecdotes avec ce véhicule-là.
C'est pour ça qu'il
rouillait, ce Jeep-là. Mais écoute, à la fin, c'était un véhicule qui était fait pour en prendre un 6 en ligne avec une boîte manuelle à 5 vitesses.
Wow!
Assez amplement de couple à bas régime. Puis j'ai fait comme tout bon propriétaire de Jeep, quand il achète un véhicule, la première affaire qu'il fait...
T'as mis des gros tires!
Des gros tires 33 pouces avec une suspension Renshaw. Hein, c'est ça qu'on mettait dans le temps sur nos véhicules pour qu'elle ait encore plus imposant sur le chemin. Dans une époque où est-ce que les véhicules des étudiants étaient pas très imposants. Tout le monde avait des Honda Civic. Puis là, ben, t'avais ce Jeep-là qui pouvait carrément rouler sur une Honda Civic. Alors non, pas de complexe d'infériorité chez Louis-Philippe. Juste une belle passion pour les véhicules en route.
Et je note quand même un autre point en commun, c'est-à-dire que alors que l'achat d'un premier véhicule doit normalement être très rationnel, nous on s'est laissé complètement emporter par la passion.
Ça avait pas d'allure comme achat là. C'était pas c'était moi ça se conduisait pas en hiver, fallait que je mette sur le 4x4, ça prenait tellement d'essence.
Avec un appartement très court.
Avec un appartement très court, puis c'était il faisait frette là-dedans, c'était épouvantable. Puis toi ben je peux même pas m'imaginer avec la propulsion d'un véhicule aussi gros que ça.
Je ne m'en suis jamais servi l'hiver.
Ah ben t'avais quoi? T'avais déjà un char d'hiver et un char d'été à 15 ans?
C'est bien pire que ça parce que j'ai acheté le véhicule à l'automne. Quelques semaines plus tard, je l'ai entreposé dans un bloc de personnes âgées pour l'hiver et je me suis retrouvé sans voiture mon premier hiver. Je le sais, c'est complètement abruti comme décision financière. Là. Ça n'avait aucun bon sens. Donc, pendant ce premier hiver avec mon permis de conduire en poche, ben j'empruntais le véhicule de mes parents lorsqu'il était disponible, mais j'avais fait le choix d'acheter une voiture d'été à l'aube de l'hiver.
Fait que ça a commencé tôt de pas conduire tes véhicules que tu viens d'acheter. Là.
Absolument.
Ben écoute, on n'a aucun regret.
C'est assumé.
Je pense qu'on s'en regarde là, puis on n'a aucun regret sur ces achats-là. Mais
et on se comprend
peu importe
totalement.
Comment qui sont illogiques.
Voilà. Sur une note peut-être un petit peu plus rationnelle, LP, allons-y de quelques conseils qui nous sont bien personnels, oui. Parce que, bon, nous ne sommes pas des représentants de l'APA ou de CAA Québec, nous ne sommes que des journalistes automobiles et grands amateurs d'automobiles. Nous avons acheté des véhicules, nous avons eu une première voiture et on se permet quelques conseils sans aucune prétention.
Ben oui, c'est ça, tu peux taper quoi regarder dans un premier véhicule, tu vas trouver des dizaines de contenus sur Google de compagnies d'assurance, de CAA, etc. Nous autres, c'est des conseils qui viennent de notre expérience parce qu'on a acheté des dizaines et des dizaines de véhicules. On veut pas essayer de vous vendre d'assurance non plus, fait que on va y aller avec le cœur.
Tu mentionnes quand même un point qui est important, les assurances, parce que l'assurance d'un premier véhicule quand on est un conducteur, en fait, l'assurance quand on est un conducteur inexpérimenté, c'est un point à regarder absolument.
Il faut magasiner.
On va magasiner le véhicule, on va regarder le financement, on y reviendra, on fait inspecter le véhicule, on y reviendra aussi. Mais l'assurance, je pense que c'est un point qui est souvent négligé. Et quand on a 16 ou 17 ans, on n'a pas de maison assurée, on n'a pas de chalet assuré.
On n'a pas de deal.
On a rien, là. On est un client que j'ai envie de qualifier de vierge. On n'a pas d'expérience, on n'a rien du tout. Donc, il y a beaucoup de démarches à faire. Donc, avant d'acheter une Hyundai Genesis d'occasion, regardez les tarifs
Parce que ça se peut que les paiements soient très élevés.
Ça se peut que vous soyez surpris de voir le rapport entre votre paiement mensuel pour acheter la voiture et celui pour assurer cette même voiture-là. Alors, première question, c'est est-ce qu'on a réellement besoin d'un véhicule neuf? Absolument pas. Pour moi, un premier véhicule, c'est un véhicule avec lequel on va faire des apprentissages, avec lequel on va apprendre à découvrir sa région et les autres régions, hein, parce que quand on est passager dans le véhicule de ses parents ou de ses amis et quand on est dans un véhicule, sur le siège du conducteur, pour moi, il y a un monde complètement différent. C'est le véhicule avec lequel on va apprendre à se stationner, par exemple, ce qui veut dire que des fois, on va peut-être apprendre à remplir son premier constat à l'amiable aussi. Donc, est-ce qu'on va acheter un véhicule neuf? Pour moi, c'est absolument pas nécessaire de prendre cette direction-là.
Ben, tu parles de parents et amis. Moi, une affaire que j'aurais fait au début, c'est de regarder l'inventaire chez les parents et amis. Parce que quand tu achètes un véhicule de ta tante, un ami à ton père, ou je sais pas quoi, quand t'es le premier conducteur, c'est sûr que tu vas avoir un bon deal, de un.
Oui.
Puis de deux, cette personne-là va être un peu redevante parce qu'elle va se dire, ben, si tu l'appelles, comment qu'on fait ça? Ça marche pas, etc. Cette personne-là va être un peu plus prompt à t'aider que si c'était un parfait inconnu. Puis, il y a toutes sortes d'avantages d'acheter un véhicule qui est issu de la famille, qui est issu des amis, non seulement financier, mais également pour avoir un peu de support qui vient avec. Je pense que si mon oncle a une minoune qui sait qu'il est tout cassé, ben, il te la vendra peut-être pas. Il va dire, regarde, passe à autre chose parce que.
Mais en même temps.
Parce qu'une personne sur Kijiji, ben, il s'en fout un peu, il veut juste la passer. Peut-être profiter de ton innocence aussi.
Peut-être aussi parce que c'est vrai qu'à 16 ou 17 ans ou même 20 ans, qu'est-ce qu'on connaît réellement à la mécanique et à la solidité structurelle d'un véhicule qui aurait été un peu rouillé ou accidenté?
Ouais.
Finalement, on n'y connaît pas grand-chose.
Ou qui a été conçu même avant toi, là.
Qu'est-ce que tu en connais? Souvent, pas grand-chose. Tu parlais de regarder l'inventaire disponible autour de soi, de la minoune de mon oncle, mais des fois, la Corolla 2005 de ma tante, qui finalement ne roulait peut-être pas tant que ça et qui a bien entretenu son véhicule, même si c'est un véhicule âgé, ça peut s'avérer être un choix intéressant. Je pense qu'il faut regarder ses finances très sérieusement aussi. C'est l'âge où on va avoir un premier petit boulot. Est-ce que, on sait qu'en ce moment, alors qu'il y a pénurie d'emplois dans des boulots peut-être un peu plus précaires, notamment, c'est difficile de trouver un boulot? Non. Mais est-ce qu'on travaille simplement pendant l'été parce que on est étudiant et on se concentre sur les études? Ça a une incidence, là, parce que ça veut dire que le butin qu'on se ramasse pendant l'été, eh bien, il va falloir vivre toute l'année avec ça. Et qui dit première voiture dit aussi première réparation. Donc, il y a une préparation financière à faire
absolument,
avec ça.
Absolument. Puis, tu viens de te mentionner quelque chose, réparation.
Oui.
Je vais regarder un véhicule, par exemple, sur une plateforme de véhicules usagés. J'ai trouvé qu'est-ce que j'aime. S'informer sur les forums de discussion, sur l'Internet. Qu'est-ce que ce véhicule-là, à ce kilométrage-là, a besoin?
Oui.
Tu sais, c'est bien beau, là, une Audi A4. à bon prix, comme premier véhicule, c'est luxueux, ça va impressionner les filles, etc. Mais s'il faut changer des composantes qui sont critiques, la pompe à eau, etc., ben c'est sûr qu'il faut calculer ça. Il y a des véhicules qui sont en vente en ce moment. Certains des propriétaires vont mentionner qu'ils ont fait ces entretiens-là. D'autres ne le mentionneront pas, qu'ils l'ont fait. Peut-être qu'ils l'ont fait, peut-être qu'ils l'ont pas fait. Mais justement, il faut s'informer sur s'il y a 15 000 piastres de réparation qui vont venir dans les prochaines années. Ça va peser dans la balance.
Tu parlais de Audi A4. Je pense que comme première voiture, on peut facilement tomber dans le piège de vouloir épater la galerie, comme tu le disais, avec une voiture peut-être un peu luxueuse, mais c'est réellement un piège d'acquérir, à mon avis, une voiture allemande ou européenne de luxe ou de pseudo-luxe comme première voiture, parce que oui, son prix à l'achat va être alléchant, mais après ça, ça va prendre des poches profondes pour être capable d'entretenir cette voiture-là. Il faut savoir aussi que si vous achetez la voiture d'un particulier et qui si la voiture n'est pas trop dispendieuse, peut-être la paierez-vous content, d'accord, ça se fait. Mais si c'est une voiture un petit peu plus coûteuse, un peu plus dispendieuse, eh bien, le particulier ne vous la financera pas comme un commerçant pourrait vous la financer. Donc, il y a toute cette notion-là qu'il faut savoir quand on magasine un véhicule. Je le mentionnais, l'inspection, c'est pas obligatoire, mais mon Dieu!
Ah, ben là, c'est sûr que oui. Au moins, tu sais, par
juste
exemple...
Juste pour savoir à quoi s'en tenir, en fait.
Toutes ces étapes-là qu'on vient de dire, OK, on a trouvé le budget, on a trouvé le véhicule, on comprend un peu l'entretien qui s'en vient dans les prochaines années. Là, on va voir le véhicule.
Ouais.
Peut-être que l'inspection, l'amener chez le mécanicien, moi, je trouve que c'est l'idéal. Si on veut pas faire ça, il y a des petites affaires à regarder sur le véhicule immédiatement pour être capable de voir s'il y a été, il y a eu des gros dommages. Je vais donner un exemple. Ouvre la porte du côté conducteur, regarde les boulons qui tiennent les portes au véhicule. Si le véhicule est à une centaine de milliers de kilomètres, ces boulons-là sont neufs, là, ils n'ont pas de rouille dessus. Mais c'est pas bon, ça vient d'être remplacé.
Fait que
c'est des petites affaires de même. On regarde le volant, l'usure sur le volant. Le véhicule a 50 000 km, le volant est tout usé déjà. Ouais. Ah, OK, peut-être que l'odomètre a été reculé, on ne sait pas.
C'est un vrai fléau, là. C'est pas des cas exceptionnels.
Ah
des
non, ça arrive.
Des
souvent.
Kilométrages reculés, il y en a à la pelletée.
Ouais.
Il faut porter une attention particulière à ça.
Ouais.
Puis, lorsqu'on ferait faire une inspection, c'est le genre de détail auquel le garagiste, le mécanicien va porter une attention.
Ouais.
Parce qu'encore une fois, ben, c'est dommage, mais quand on a 18 ans, on n'est pas nécessairement outillé pour voir tout ça et on peut se laisser impressionner par la poudre aux yeux d'une voiture qu'on aura magasinée longtemps et qu'on va trouver de notre goût ou on subira peut-être une mauvaise influence d'amis qui aura aussi, justement, une voiture allemande de luxe. De plus de 15 ans.
Puis aussi, plus de documentation, le plus de factures, le mieux. Parce que on regarde un vendeur, on arrive, est-ce que le véhicule est entretenu? Ah oui, j'ai fait tous les changements d'huile, etc. J'ai fait telle affaire. Puis c'est tout, un peu dans les airs. Il n'y a pas de papier, il n'y a pas de preuves. On peut croire que ça est arrivé. Moi, des fois, je vais perdre mes factures. Ça peut arriver. Mais la personne qui a un paquet de factures, un cartable, il veut vendre son véhicule, il est bien documenté, on voit que les changements d'huile ont été faits à des intervalles qui sont raisonnables, on voit que les rappels ont été effectués, ça c'est à la SAC, on va pouvoir voir ça, mais je veux dire, on voit que la personne a ramené son véhicule au concessionnaire ou même dans un garagiste qualifié qui a effectué les travaux sur le véhicule puis qui a une preuve à l'appui, c'est pas pour ramener des pièces, là, c'est juste pour voir que ce véhicule-là a été entretenu à travers les années, parce que...
Connaître l'historique, c'est un peu... acheter la paix d'esprit,
ben
c'est
oui.
Éliminer finalement les surprises qu'on ne veut surtout pas quand on est jeune et qu'on a des finances précaires.
Oui.
Donc, juste de savoir depuis combien d'années le propriétaire-là, est-ce que le véhicule est passé par l'Ontario? Si oui, tout d'un coup, il y a un drapeau rouge qui se lève. Donc, de connaître l'historique, de s'assurer de la transparence du vendeur, déjà là, c'est une bonne étape de franchie.
Moi, j'ai déjà fait une erreur aussi. J'ai acheté un véhicule. Il avait l'air beau. Tu sais, j'étais pressé. J'avais besoin d'un véhicule rapidement. Puis, j'ai jamais regardé. C'est un véhicule bon marché, là. C'était vraiment pour remplacer un véhicule temporairement. Je vais te dire 1 an ou 2 ans. Puis, j'ai pas regardé l'état des pneus. Ah. Fait que là, c'est un véhicule bon marché, quelques milliers de dollars, mais là, je me ramasse avec acheter un maudit train de pneus.
À plusieurs centaines de dollars. Ben oui. Que tu n'as pas forcément dans tes poches à ce moment-là.
Ça, ouais. On s'entend que des pneus, c'est dispendieux. Oui. Tu veux de la bonne gomme, là, on s'entend. C'est pour la sécurité.
Oui.
J'ai besoin d'un train de pneus, puis là, ça a pesé énormément. Ça a fait que ce véhicule-là était beaucoup plus dispendieux que peut-être un autre choix qui avait deux saisons qui restaient sur son train de pneus. C'est quelque chose, c'est une erreur que j'ai fait, puis je l'ai plus jamais refait après. Parce que j'ai regardé non seulement est-ce qu'il y a des pneus d'hiver qui viennent avec, c'est aussi un autre dépense qui peut venir plusieurs centaines de dollars, mais les pneus qui sont sur le véhicule, l'état des pneus, c'est très important parce que sinon, mais non seulement c'est un problème de sécurité, mais également ça va vous en coûter très cher pour quelque chose qui peut être inspecté visuellement, là, qui n'a pas besoin d'un professionnel pour être capable de regarder ça.
J'ai l'impression, LP, qu'on nous demande souvent les mêmes questions et on me demande souvent quel modèle je dois regarder. Mais quand on regarde pour une première voiture avec un budget, par exemple, de moins de 5 000 $ parce que, justement, on a un boulot d'été et pas beaucoup plus que ça, pour moi, il n'y a pas de recette miracle parce que, comme je le dis souvent, évidemment, il y a les célèbres Civic et Corolla qui sont des incontournables. Mais entre toi et moi, je préfère une Elantra qui aurait moins de kilométrage, un historique connu et qui aurait été entretenue et qui est non accidentée par rapport à une Civic qui, elle, aurait un haut kilométrage non entretenu et qui aurait été accidentée. Donc, quand on est rendu dans ces petit budget-là, eh bien, je trouve que l'historique et l'entretien
oui.
doivent passer avant le modèle convoité parce que plus le véhicule est âgé, moins finalement c'est important, j'ai envie de te dire.
Ben Germain, tu soulèves ça, puis c'est important parce qu'en ce moment, les gens gardent leur véhicule très longtemps parce ouais. que bon, il y a quand même une bonne demande pour l'offre. Et puis les véhicules, les gens attendent leur véhicule, les véhicules usagés, les véhicules qui ont commandé un véhicule électrique, par exemple, ça fait 2 ans qu'on attend. La personne qui a une Civic, une Corolla, sait que c'est un signe de la fiabilité. Les gens veulent pas se casser la tête avec ça. Fait que les prix vont être très haut pour la Civic, pour la Corolla, etc. Tandis que des véhicules pseudo-récents chez Kia qui ont augmenté la fiabilité là, à travers les années, quelqu'un qui va dire, ben l'image de Kia peut-être pas aussi bonne que Toyota ou un Corolla ou Honda Civic, etc., mais que la fiabilité est là justement pour qu'est-ce que tu viens de dire, que le véhicule a été entretenu. Il va avoir un meilleur marché à faire, je pense, absolument, surtout en ce moment, que comme les gens pensent que leur Honda Civic vaut une fortune. Là,
en terminant, LP, j'ai pas le choix d'avoir une pensée justement pour ces jeunes adultes et ces étudiants qui se procurent leur première voiture parce que il était un temps où tout le monde achetait une Tercel, une Eco, une Cavalier. Bref, le temps où ces petites voitures-là étaient très nombreuses sur nos routes, où elles étaient accessibles, disponibles pour ces premiers conducteurs-là. Mais malheureusement, les petites voitures n'existent pratiquement plus.
Non.
Elles sont toutes mortes au cours des dernières années. Il reste quoi? Une Mitsubishi Mirage, une Nissan Versa dans les neuves. Sinon, le restant, une Kia Rio pour quelques mois encore. Sinon, tout le reste a été éliminé.
Ouais.
Alors, j'ai une pensée pour ces premiers acheteurs-là. Là, je sais que ce n'est pas facile. Petit conseil en terminant, les voitures compactes sont souvent très convoitées ici au Québec. Un exemple très simple, on pourrait avoir intérêt à regarder, par exemple, pour une Subaru Legacy, si on magasine pour une Subaru Impreza, parce que plus on recule en âge, plus leur prix va se ressembler énormément. On va avoir un véhicule qui va être un peu plus spacieux et peut-être même moins convoité. Alors, ça peut être une alternative intéressante. Si on regarde, par exemple, je sais pas moi, une Versa ou une Sentra de quelques années
ouais.
et qu'on a du mal à en trouver une à bon prix avec un juste kilométrage et un entretien qui a été fait, ben on peut penser, par exemple, à une Altima qui va être, oui, un peu plus grosse, plus spacieuse, mais qui sera pas nécessairement forcément plus cher parce
oui.
qu'elle sera plus grosse. Bref, petit conseil, comme on dit en anglais, my two cents, mes deux cents, elles vous seront assurément pratiques lors du magasinage de votre première voiture. Merci d'avoir été des nôtres. C'était Louis-Philippe Dubé et moi-même, Germain Goyer à l'animation.
Et Philippe Séguin à la réalisation, au montage et musique.
C'était une production Cube Radio.